France Culture.
Bienvenue à tous dans les Midis de Culture. À 13h, je recevrai Didier Sandre qui joue avec la troupe de la Comédie Française dans la nouvelle mise en scène du Soulier de Satin signé Éric Ruff. Mais tout de suite, c'est l'heure du Point Culture avec vous, Sophie-Catherine Gallet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quoi de neuf dans le monde culturel en ce lundi 30 décembre?
Eh bien, depuis hier, sur Arte TV est diffusé le documentaire Tout sur Marie, retraçant 2000 ans d'évolution iconographique de la Vierge Marie, cette personnalité incontournable de la religion chrétienne. Un point sur les transformations de cette figure à l'époque contemporaine. C'est notre dossier du Point Culture du jour. Bonjour Nathalie Dicci.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne, spécialiste des relations entre art profane et art sacré au XXe et XXIe siècle. Alors la figure de la Vierge Marie a beaucoup évolué depuis 2000 ans et notamment à l'ère contemporaine, avec des artistes qui se sont emparés ou qui se sont inspirés de cette figure. Mais qu'est-ce que ça raconte au fond de l'époque dans laquelle sont produites ces œuvres? Est-ce qu'il ne s'agit que de questionner la religion et ses symboles selon vous?
Alors, c'est vrai qu'on constate une véritable évolution hein, des représentations de la Madone à l'époque contemporaine qui vont discuter de problématiques contemporaine, puisqu'en réalité, chacune de ces représentations s'inscrit dans un contexte particulier, historique, géographique, culturel, politique. Et chacune de ces œuvres exprime ou reflète les évolutions sociétales dans lesquelles elles s'inscrivent. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles s'inspirent toutes des canons hérités en grande partie de l'art byzantin. Et ces canons vont être réinterprétés, réinvestis à l'aune des problématiques actuelles qui sont en particulier associées à la maternité et au féminin, évidemment. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que ces canons qui remontent à l'art byzantin, en fait, l'art byzantin a légué trois grands modèles, la Vierge de tendresse, la Vierge en majesté, celle qui est sur un trône, hein, et puis la Vierge protectrice, celle de qu'on dit la Vierge de miséricorde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, cette Vierge de tendresse, dont on a à l'esprit de nombreuses représentations ensuite, hein, dans l'art occidental, avec la période renaissante, qui montre, par exemple, la Vierge qui peut donner le sein à l'enfant Jésus, ou même jouer avec lui, eh bien, au XXe siècle, va pouvoir être complètement réinvesti, voire même, on va avoir des artistes s'opposer à cette représentation, qui est due, en fait, à l'émancipation de l'art et de l'artiste. Puisqu'au XXe siècle, bien évidemment, les artistes ne répondent plus à des commandes d'église et donc créent des œuvres qui sont faites dans le champ profane, qui ne sont plus des commandes d'église, qui ne sont plus liées à des œuvres de culte, mais qui sont faites hors des églises. Alors bien sûr, avec la séparation de l'église et de l'État en France en 1905, hein, c'est un des facteurs d'émancipation aussi de l'art et de l'artiste, mais pas seulement. Et donc ces modèles vont être complètement réinvestis de manière très libre et subjective avec, par exemple, là, un cas très connu, c'est l'œuvre de Max Ernst montrant la Vierge en train de donner une violente fessée à l'enfant Jésus. Et là, on a un renversement total de ce modèle de l'art byzantin, issu de l'art byzantin de la Vierge de tendresse, pour avoir une représentation, au contraire, d'une Vierge violente qui donne cette punition corporelle à l'enfant Jésus. Et c'est possible par cette émancipation de l'art.
Mmh. Et alors, il y a ces exemples dont vous nous parlez, mais il y a aussi plus récemment l'exemple de Madonna, qui a joué de la provocation avec donc l'image de la Madone. Mais on peut penser aussi aux Pussy Riot qui ont dirigé vers la Vierge Marie leur prière punk lui demandant de chasser Poutine de Russie. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que ce soit justement ce personnage-là, la Vierge Marie, dans la religion chrétienne, qui soit devenu le support d'un activisme politique et surtout artistique ?
Alors, je pense que c'est lié à certains cas. Alors, d'abord, parce que dans le culte catholique, la Vierge est centrale. Hein. Elle est mère, Vierge et Reine. Elle est avant tout mère de Dieu. Donc, elle est pure. Hein. Elle est sans péché. Et certains et certaines artistes, surtout, vont déconstruire cette image et l'utiliser aussi comme véhicule de protestation. Donc, c'est le cas de Madonna, très clairement, artiste américaine, catholique, d'éducation catholique, qui va, justement, dans les années 80, essayer de déconstruire cette image et se libérer de la culpabilité, en fait, qu'impose l'image de cette figure virginale. Donc, toujours avec l'idée qu'on a besoin de spiritualité, mais que la femme doit se dégager, se libérer de cette culpabilité associée à la sexualité. Donc il y a un mouvement d'héritage et aussi d'émancipation qui s'inscrit bien sûr dans les luttes des années 60 et 70, des luttes féministes. Les Pussy Riot, c'est un même mouvement quelque part, dans le contexte russe cette fois, avec ici l'usage de la figure mariale qui est très présente dans l'Église orthodoxe, qui est aussi une figure de pureté humaine, et dont les Pussy Riot veulent se libérer, qu'elles veulent contester. Il y a l'idée de dénoncer aussi justement le carcan dans lequel les femmes sont emprisonnées à travers cette image qui parle à tout le monde.
Et comment on peut expliquer ce qui semble quand même a priori être une forme de paradoxe, ce réemploi de cette figure par des personnalités féminines, féministes parfois aussi ?
C'est en fait une figure qui est largement partagée, que tout le monde connaît et qui donc permet d'être réinvestie très facilement, d'être actualisée et qui, ce qui me semble extrêmement important, est porteuse de discours critiques aujourd'hui par ce réinvestissement. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans les Écritures, par exemple, la Vierge est presque muette, elle est silencieuse, elle parle très très peu, 4 fois dans les Évangiles. Et avec ce réinvestissement des artistes femme avant tout et féministe, cette figure parle, elle dit quelque chose, elle conteste cette image justement dans laquelle elle a finalement emprisonné les femmes qui doivent être pures, parfaites et rester vierges. Et donc, c'est bien sûr un héritage des mouvements féministes des années 60-70, où on avait déjà des artistes qui s'étaient réappropriés cette figure qui était pour elle justement une image idéalisée, sacrée, qui ne correspond pas bien sûr à la vie d'une femme et dont il fallait justement casser l'image, dénoncer en fait le patriarcat quelque part, dans lequel cette figure emprisonnait les femmes.
Merci beaucoup Nathalie Dicci.
Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, l'autobiographie du pape, on reste finalement dans le même thématique, du pape François, a fuité sur Internet.
Et oui, sa sortie qui était prévue, qui est toujours prévue d'ailleurs le 15 janvier prochain, mais une mouture donc presque achevée de l'ouvrage a déjà circulé sur Internet. Début décembre, un homme se faisant passer pour Carlo Musso, qui est le co-auteur de l'ouvrage, a joint la maison d'édition de la version allemande sous prétexte de superviser les traductions. Les prises de contact de l'imposteur auprès des Anglais puis des Italiens ont rapidement éveillé les soupçons, mais le mal était fait. Espère, le nom du livre en français se dispersait déjà sur les réseaux.
Stonehenge nous en apprend davantage sur la préhistoire de la Grande-Bretagne.
La vocation originelle de Stonehenge ne serait pas religieuse ni astronomique, mais politique, selon une étude publiée dans la revue Archaeology International le 19 décembre. Le site serait en fait un symbole d'unité entre les peuples de Grande-Bretagne à l'âge de pierre. C'est la découverte cet été de l'origine de la pierre centrale qui est venue apporter un élément supplémentaire à cette hypothèse. Celle-ci provient d'Écosse, à 750 km de là. Les pierres qui entourent le monument ont quant à elles été récupérées à 20 km du site et c'est à 225 km que les bâtisseurs sont allés chercher celles qui constituent le cercle extérieur. À travers ces roches, Stonehenge représenterait donc la multiplicité de ces territoires.
Roxane Stojanov est nommée danseuse étoile à l'Opéra National de Paris.
Après avoir été corps de ballet, coryphée, sujet, puis première danseuse, elle a obtenu le prestigieux titre à l'issue de la représentation du ballet Paquita qu'elle interprétait samedi dernier à l'Opéra Bastille. Jusque-là, on avait pu voir la franco-macédonienne danser dans la Sylphide, Casse-Noisette, Don Quichotte ou encore le Lac des Cygnes. Après son intégration au sein de l'école de danse de l'Opéra National de Paris en 2007, elle s'est illustrée lors de tournées internationales à Tokyo, Moscou ou encore Séoul, où sa polyvalence avait été remarquée.
De la danse toujours, mais cette fois-ci au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, vous pourrez aller voir La Reine des Neiges jusqu'au 5 janvier, un ballet inspiré du conte d'Andersen. Les arrangements de musique de Massenet, Offenbach ou encore Berlioz sont composés par deux Ukrainiens, Oleksiy Baklan et Aniko Rakviashvili. Et c'est le ballet de l'Opéra National d'Ukraine qui présente ce spectacle. Les danseuses et danseurs étaient déjà venus il y a 2 ans, quelques mois après le début de la guerre. Le théâtre a réitéré l'invitation, geste de soutien à une compagnie qui continue malgré tout, à se produire sur la scène de l'Opéra de Kiev.
Et pour finir, Sophie Catherine, une disparition dans le monde du cinéma.
Oui, Olivia Hussey, encore adolescente lorsqu'elle avait interprété Juliette dans le Roméo et Juliette réalisé en 68 par Franco Zeffirelli, est morte vendredi dernier. Après ce rôle, elle en avait joué un autre non moins iconique, celui de la Vierge Marie, encore elle, dans une série réalisée de nouveau par Zeffirelli.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve demain pour d'autres actualités culturelles. Eh bien, pour l'heure, il est presque 13h. Entendez-vous les trois coups, les midis de culture font place au théâtre.